bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints, puisque je vois que vous êtes nombreux à être venus dès 21h. Merci à toi, Cathy, pour de nous rejoindre dans le studio déjà, et puis de pouvoir animer ce débat en ce soir. Alors, bonsoir à toi, Cathy.
Bonsoir, David. Bonsoir, William. Bonsoir, tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne première semaine de 2017.
Ben écoute, ils te répondront par, par message. Merci beaucoup en tout cas pour cette thématique aussi qui a été proposée par toi. Uh-huh. Et voilà, que j'aimerais que tu nous expliques en détail et puis que tu puisses nous présenter aussi Francine dans un moment. Donc voilà, c'est à toi et on t'écoute.
Alors en fait, ce thème de débat est ressorti autour d'une discussion avec certains membres de l'équipe Advent Life, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, même si on aimerait répondre à cette question facilement, on se rend compte qu'on a un regard différent dans nos églises envers les personnes qui n'ont jamais été mariées. Donc ce soir, afin de répondre à cette fameuse question, le mariage est-il un passage obligé dans la vie du chrétien ? Nous sommes heureux d'accueillir Francine Monder-Blataz. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance de suivre certaines de ses interventions telles que « Marié, pourquoi le devenir ? Pourquoi le rester ?» ou « La sexualité comme Dieu la voit, c'est-à-dire très bon ». Originaire de la Guadeloupe, Francine a suivi un cursus de gestion d'entreprise avant d'être appelée par Dieu et de décider d'y répondre favorablement. Pour ce faire, elle décide de suivre des cours de théologie à la faculté de théologie de Collonges-sous-Salève. Son mémoire de master a tenu sur le thème de la préparation au mariage dans l'église adventiste. Elle est mariée à Teddy Blataz et exerce actuellement en qualité de conseillère conjugale et familiale à Paris. Maintenant que je vous l'ai présenté, je lui souhaite la bienvenue. Bienvenue Francine.
Alors, merci beaucoup de m'accueillir ce soir.
J'espère que tu vas bien.
Oui, je me porte bien, par la grâce de Dieu, ça va.
Alors, je suis très très heureuse d'avoir réussi à te joindre concernant ce débat. Petite histoire, c'est par la foi que je l'ai appelée dans un dernier appel de désespoir de cause parce qu'on n'arrivait pas à se joindre et elle a répondu favorablement et je dis amen à cela.
Gloire à Dieu.
Alors Francine, peux-tu nous éclairer ? Le mariage est-il un passage obligé dans la vie du chrétien ?
Alors, je l'avoue, j'ai été aussi moi-même ravie de ton appel. C'est vrai qu'on a eu peut-être des difficultés pour se rencontrer et j'ai beaucoup aimé justement cette formulation au travers de cette question qui, mine de rien, cache pas mal de petits pièges si on y répond comme ça. Voilà, donc j'avoue que j'aime bien cette formulation, cette tournure de phrase. Et puis du coup, effectivement, tu soulevais la réalité des célibataires qui, je pense, ont été aussi à l'origine d'une telle question. Et en même temps l'occasion de pouvoir me prononcer en tout cas sur le mariage. Donc j'espère pouvoir répondre, mais peut-être pas à tout parce que forcément il y a la notion du célibat derrière cette question. Et comme je te le disais déjà, il aurait été peut-être intéressant qu'on s'entende une autre fois et qu'on traite de ce sujet du célibat et de tout ce qui tourne autour. Mais je vais tâcher de répondre à la question qui m'a été posée. C'est-à-dire, tel que ça a été formulé, le mariage était un passage obligé dans la vie du chrétien. Alors déjà, ce qui m'a interpellée face à cette question, c'est le terme « obligé ». Forcément, je vais écarter ce qui risque d'être problématique dans la compréhension de tout le monde. Bibliquement parlant, l'obligation, tout ce qui est la contrainte n'est pas un terme biblique ou un terme divin dans la vision de ce qu'on peut comprendre de Dieu. Dieu n'impose à personne quoi que ce soit, ne contraint personne à quoi que ce soit. Il n'y a qu'un être qui le fait et ce n'est certainement pas Dieu. On part avec Dieu toujours dans cette liberté du choix. Dieu est toujours celui qui donne la possibilité à hommes, femmes, enfants aussi, même d'ailleurs, la liberté de choisir. On le revoit d'ailleurs dans Deutéronome, lorsqu'il dit Deutéronome 30-19. Voilà, j'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction.
Choisis.
Voilà, choisis, choisis, fais le choix. Je ne t'oblige à rien, mais fais le choix. Bon, maintenant, derrière le choix, il y a forcément un projet, un plan de Dieu. D'accord? Et c'est là que j'entends dans le terme « est-il un passage obligé ?» Non, en fait, c'est plus qu'un passage. Quand on parle du mariage, c'est plus qu'un passage, c'est un projet de Dieu, d'accord? Qui conduit à une expérience de vie et une expérience qui est appelée à durer. Donc, on n'est pas dans simplement un passage où voilà, on teste, ou alors un accès obligé pour atteindre le ciel ou je ne sais quelle autre galaxie qu'on pourrait s'imaginer. Non, on est vraiment dans Dieu qui a souhaité, qui a un projet. Lorsque Dieu a créé le mariage, et c'est là que je voudrais vraiment conduire nos auditeurs à la réflexion, au-delà de faire la distinction entre ceux qui sont mariés, ceux qui l'ont été, ceux qui sont divorcés, ceux qui sont séparés, ceux qui sont en train de se marier, qui sont dans le projet de mariage, on part vraiment sur un terrain qui soit, je l'espère, pour chacun neutre. En se disant que quand Dieu il a créé le mariage, ben, il l'a peut-être pas fait comme ça au petit bonheur la chance. Il avait quelque chose en tête, il avait un projet. Et ce projet-là, il a partagé, en tout cas avec ses créatures. Enfin, avant de l'avoir partagé avec ses créatures, certainement avec son Fils, hein, parce que quand on parle de Dieu, on parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Ils sont là en conseil, et ils envisagent un projet déjà dans la création de la Terre. Et dans cette création, ils vont y intégrer l'homme. Et dans l'homme, enfin pour l'homme, ils vont proposer ce beau projet. Parce qu'il faut quand même partir du principe que le mariage, c'est un beau projet de Dieu.
Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le mariage fait partie du plan de la rédemption pour l'homme. Ou a été pensé dans le cadre du plan de rédemption pour l'homme.
Alors, avant même, alors j'entends bien ta question, avant même de parler du plan de la rédemption, et c'est vrai que tu as raison en même temps, parce que quand Dieu crée la terre, il sait aussi que la terre va connaître la chute, il le sait, donc il y a forcément un plan de la rédemption dans lequel va encore se trouver intégrer le mariage. Mais j'ai envie d'enlever tout ça, si tu veux, en ce qui concerne le plan de la rédemption de l'homme. Au départ, il y a un autre plan qui est prévu. Et là, c'est vrai que tu m'emmènes dans un domaine qui va nous ramener au ciel avant d'arriver à la terre, qui nous ramène au ciel. Quand Dieu va créer l'homme, il y existe déjà le ciel. On est bien d'accord? Il existe déjà les anges, il existe déjà le cosmos, il existe déjà Lucifer, il existe déjà tout cela. Mais au-delà de tout ça, il existe aussi un conflit qui a explosé au ciel et qui a créé une vraie au ciel, une vraie tension, une vraie crise. Je ramène le mariage dans une dimension beaucoup plus haute que ce que l'on connaît, qui ne reste que de l'aspect terrestre.
Oui, qui est limité.
Pour ça, voilà, il faut aller dès le départ, il faut commencer au départ. Au départ, il y a un ciel. Et dans ce ciel, nous n'existons pas. Mais il y a des anges, il y a des habitants des autres mondes qui existent. Et puis, il y a aussi un conflit qui va démarrer, nous rappelle l'Apocalypse 12. Il y a une guerre, Apocalypse 12, verset 7, qui va démarrer, qui va créer une tension au ciel. Et ça va concerner, dans un premier temps, les anges. On est bien d'accord. C'est les anges qui sont concernés, même pas trop les habitants des autres mondes. Ça va être les anges qui vont être concernés là-dedans et qui vont avoir à être, comme tu le dis dans le terme que tu emploies, à être quelque part sauvés de cette situation de conflit. Parce que, à partir de ce que Lucifer va générer comme doute, de ce que Lucifer va générer à l'égard de Dieu comme questionnement. Est-ce que c'est un Dieu d'amour? Est-ce que c'est un Dieu qui nous veut du bien? Est-ce que sa loi est une belle loi? Est-ce que la loi de l'amour est la loi de la liberté? Mais toutes ces questions-là vont être celles qui vont être posées finalement aux anges. Et cette division qui va se créer entre les bons anges et les mauvais anges, je fais très court en disant cela, mais c'est ça en fait déjà là où le plan de la rédemption, j'ai envie de vous dire, commence. ben, c'est ces êtres-là qui ont besoin de comprendre quelque chose en ce qui concerne Dieu, d'être rattrapés dans leur compréhension de Dieu. C'est dans ce sens-là que je vais utiliser le terme de rédemption, de récupération. Mmh. Et c'est là que maintenant, le mariage, quand l'homme va être créé à l'issue de cela, j'espère que vous me suivez, l'homme n'est pas créé lorsque le conflit explose, l'homme est créé après le conflit. Mais le conflit cosmique va forcément impacter la création de l'homme. Et qui dit la création de l'homme, mais aussi le mariage, puisque le mariage a été créé après que l'homme ait été créé. Mmh. Et forcément, on ne peut pas aujourd'hui, en plus, nous chrétiens, et nous chrétiens, je dirais, de dénomination adventiste, penser que le mariage n'a que pour but de nous rendre heureux, de vivre heureux pour les, pour, non, il faut y injecter une dimension de ce que Dieu a su nous révéler dans l'Apocalypse. Et justement, on finit par comprendre que il y avait besoin, au travers de la création de l'homme et au travers de la création du mariage, de révéler qui est Dieu. Mm-hmm. Et Dieu est amour.
Donc, le mariage, j'insiste sur le fait que tu dis que dans le but du mariage, il y a aussi de révéler qui est Dieu dans cet espace-là.
Oui. Ah, complètement. Mmh. Ah, mais complètement. Sinon, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le mariage reste une institution divine. Ce n'est pas une institution humaine. Ce n'est pas une institution, je dirais, de l'État. C'est une institution divine. Donc, forcément, qui dit institution divine, elle a une empreinte divine. Et elle a une empreinte, si Dieu la crée, Dieu va créer cette institution, il a quelque chose derrière. Il a un but. Il veut atteindre un objectif. Quel est cet objectif? D'où il part? Où il va? Il faut qu'on se pose ces questions-là pour pouvoir injecter une dimension, je dirais, plus haute au mariage et une profondeur, finalement, dans cette expérience. Parce que c'est une expérience, c'est pas un passage. Hein. On part pas d'un lieu pour arriver à un autre lieu. Hein. C'est vraiment une expérience. Maintenant, quelle est-elle? Pour ça, il faut comprendre l'histoire de Dieu aussi. Il faut prendre de la hauteur comme lui, il est haut. Et c'est là que je ramène souvent, lorsque j'ai l'occasion de le faire, de parler du mariage, de ramener au début des choses, à la Genèse. Alors, la Genèse ne commence pas, nous le savons, ne commence pas dans le premier livre de la Genèse. La Genèse commence vraiment déjà dans le ciel. Et c'est là où il y a eu ce doute sur la personne de Dieu. On a douté de son amour, douté de sa loi, cette loi d'amour qui est basée sur des principes d'amour, d'athéisme, d'unité, de fidélité, d'intérêt pour l'autre, de service, de bonté, de communion. Et c'est tout ça qui a été remis en question par qui, vous le savez, d'accord, qui va justement être, je le pense, l'objectif de Dieu, de pouvoir être réintégré, révélé comme étant vraiment une réalité qui est solide et qui doit rester constante au ciel comme sur la terre et partout ailleurs. Mmh. Donc quand Dieu va créer le mariage, je le crois, et bibliquement parlant ça se vérifie, son objectif c'est justement qu'il y ait possibilité pour l'homme qui vient tout juste de être créé et qui pourtant n'est pas impliqué dans ce conflit, de pouvoir vivre ce que Dieu est et les principes qui sont issus de sa loi. C'est la raison pour laquelle il va dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Mmh. Parce que s'il est seul, il ne pourra pas vivre l'amour. Il ne pourra pas partager l'amour. L'amour ne se partage pas seul. Mais l'amour n'est pas non plus qu'un sentiment où je t'aime à la folie. Et
quelque chose de léger.
C'est pas quelque chose de léger. L'amour, c'est un principe. Et c'est ce principe-là que Dieu va donner l'occasion aux hommes, mâles et femelles, s'il vous plaît. Hommes et femmes, hein, je précise. Il faut que la question se pose. Quand même. Hommes
c'est
et
noté.
Femmes. De... il va donner à l'homme et la femme l'occasion, dans leur différence pourtant. Comme Dieu, le Père est différent de Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, pourtant ils sont unis, et bien il va leur donner l'occasion à cet homme et à cette femme, à ces deux-là, de pouvoir vivre ce qu'il est et de le manifester. À qui? Pas aux hommes, puisqu'il n'y a pas encore d'hommes sur la terre, mais de pouvoir le manifester aux anges qui sont là comme spectateurs de cette réalité qu'ils n'avaient jamais vue. Alors j'aimerais quand même préciser que le mariage est une entité, une création qui est tout à fait nouvelle. Ça n'était jamais vu dans l'univers entier. Deux êtres qui sont créés et qui vont fermer l'entité couple, ça n'avait jamais existé avant.
C'est vraiment une institution qui a été établie pour l'homme.
Exactement, pour l'homme. Mais il faut savoir pourquoi. Mm-hmm. Parce qu'au travers de cette institution, Dieu a un objectif, c'est de se révéler. Mm-hmm. aux habitants des autres mondes et, qui plus est, aux anges, mais j'aimerais vous dire aussi à Lucifer, parce que lui-même aussi s'interroge sur Dieu, car il prétend que Dieu est ceci, Dieu est cela, il ne sait pas, il ne connaît pas. Il va développer toute une théorie concernant la loi de Dieu, le principe de Dieu, il va dépeindre mal Dieu. Donc tout l'univers, je vous dirais, toutes les dominations célestes ont besoin de connaître cet être-là. Mmh. Voyez-vous, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va créer l'homme, il va créer la femme, il va les unir en couple au travers des liens du mariage et de sorte qu'il puisse leur être possible de vivre l'amour dans toute sa profondeur. Au-delà du sentiment, c'est un principe. Mmh. Voilà le plan de Dieu dans le jardin d'Éden quand tout est parfait, on est bien d'accord. Là, tout est parfait. Et c'est pour ça qu'il va dire d'ailleurs... Croissez et multipliez-vous. Voilà, développez ce principe de l'amour au travers du mariage. Faites des enfants, mais dans cela, vivez ce principe de bonté, d'unité, de renoncement que je suis, d'honnêteté, de pardon, de dépouillement de soi, de simplicité, de l'intérêt de l'autre. Tel était l'objectif du mariage dans son entité première, dans sa réalité première. Mmh. Voilà, quand on va vraiment en profondeur, et là je suis très très court hein, d'aller là-dedans, c'est pour cela qu'il va dire, l'homme va quitter son père et sa mère, de qui il a eu une première éducation dans cette ambiance de bonté, de piété, je voudrais dire, dans cette ambiance d'amour, et bien il va quitter son père, sa mère, et il va aller s'attacher à sa femme, cette femme qui a aussi vécu, je l'espère, enfin toi Dieu l'espère, que cette même réalité, d'éducation altruiste, de l'amour, et tous les deux, unis, vont pouvoir vivre, quitter l'homme et sa femme, et les deux s'attacheront pour devenir justement une seule chair. Cette même unité que Dieu est, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Ils sont différents, mais pourtant unis, et ils sont surtout, ils s'aiment les uns les autres. Mmh. Voilà, d'un amour qui se donne, et d'un amour qui se sacrifie des uns pour les autres. Donc voilà l'objectif de Dieu dans le jardin d'Éden. Alors bien sûr, vous pensez bien que tout ça, c'était avant, comme pour reprendre l'expression de la fameuse publicité, c'était avant. C'est qu'il s'est passé quelque chose qui n'est pas entré finalement dans le projet de Dieu, qui est entré dans ce projet, qui n'était pas le souhait de Dieu, mais qui est quand même entré et qui est venu court-circuiter ce projet-là. Mmh, mmh. Je dis bien court-circuiter, mais pas l'anéantir. D'accord? Court-circuiter, créer une problématique, c'est le péché. Et c'est là qu'il faut vraiment mettre le doigt dessus. C'est que le projet de Dieu et ce péché qui vient, le péché c'est quoi? Le péché c'est pas simplement transgresser la loi de Dieu. C'est pas simplement Adam et Ève qui vont prendre fruit et qui vont de ce fait transgresser une loi. C'est la manifestation même d'un principe qui est complètement contraire à ce que Dieu a voulu et ce que Dieu est en lui-même. Et que la loi de Dieu est aussi. C'est l'égoïsme, c'est l'ego. Mmh. C'est le moi, c'est l'intérêt pour soi, c'est chercher son à s'exalter. C'est tout ça le péché. Je parle bien pas des péchés, je parle du péché, d'accord? Qui va avoir plusieurs variantes qu'on va voir sur la terre, qui va prendre des tournures différentes et qui va surtout créer la souffrance. Mais ce péché-là va aussi intégrer finalement la création de Dieu, l'institution de Dieu, qui est le mariage. Et il va être vraiment une grosse problématique. C'est la raison pour laquelle on va se retrouver dans cette réalité de mariage avec un objectif qui est celui de pouvoir révéler Dieu dans l'amour, mais en même temps avec des humains qui, atteints par le péché, vont être incapables naturellement de pouvoir manifester l'amour, mais malheureusement manifester le péché, c'est-à-dire l'égoïsme, mmh. L'intérêt de soi, l'ego, voilà. Et tout ce qui en est. Et c'est ça, en fait, qui crée le malheur au sein du mariage. Voilà.
C'est l'absence de Dieu, en fait. Ce que tu dis aujourd'hui, c'est l'absence de cette dimension spirituelle qui fait du tort au mariage aujourd'hui.
L'absence de Dieu, oui, par définition, mais c'est surtout la présence d'un être qui s'appelle mmh. le péché. C'est c'est la présence d'un être dans un projet qui n'était pas conçu pour cela,
pour ça.
Qui était conçu justement pour éradiquer le péché, puisque l'objectif était quand même pour Dieu d'éradiquer le péché au travers de la manifestation de l'amour, et l'amour au travers des hommes, ben justement ces mêmes hommes qui avaient pour objectif de manifester l'amour vont être les mêmes qui vont malheureusement trompés par l'ennemi, certes, mais qui vont malheureusement adhérer à un principe qui ne peut pas faire, je dirais, bonne combinaison au sein du mariage. On ne peut pas parler de mariage qui est appelé à être le lieu d'amour, le lieu de manifestation de l'amour, et en même temps combiner avec le péché, le principe du péché. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des, c'est pour ça qu'il y a de la souffrance dans le mariage aujourd'hui. C'est pas possible. Il faut qu'il y en ait un qui sorte. Et c'est le péché à la base. Malheureusement, il faut surtout le reconnaître. Et je le répète, le péché, c'est pas simplement transgresser la loi de Dieu en n'observant pas le sabbat ou en volant. C'est plus profond que ça.
Voilà, c'est ça.
C'est beaucoup plus profond que ça. Voilà.
Alors, Francine, il y a des questions qui sont arrivées. Et juste avant, j'aimerais rappeler que vous pouvez poser vos questions au 07 68 08 46 44. Mais juste avant, j'ai une question sous les yeux que j'aimerais, qui viendra peut-être faire rebondir un peu le débat. Alors, comment comprendre qu'après que tout a été fait à la création, parfait, c'est Dieu qui le dit lui-même, tout était parfait, il commence avec un mariage? Est-ce que cela finalement ne met pas une forme de pression insidieuse et laisse penser que si cela n'arrive pas dans ma vie, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à reproduire le divin modèle, d'autant qu'il dit presque comme un ordre, et d'ailleurs c'est quasiment un ordre, croissez et multipliez. Et à cette question est accolée une autre qui est comment justement faire dans ces cas-là pour rester quand même un chrétien, j'ai envie de dire, épanoui.
Alors, est-ce que tu peux me reprendre juste la première question et ensuite
alors,
je prendrai la deuxième.
En gros, on voit la création qui est en fait faite parfaite et Dieu commence tout par un mariage. Et en fait, est-ce que finalement, cela ne met pas une pression insidieuse en moi qui n'ai pas réussi à me marier pour l'instant? Est-ce que finalement, voilà, ça ne crée pas une frustration à cause de cela?
Okay. Alors, je vais juste reprendre un point. La première chose que Dieu crée, c'est quand même pas le mariage. Il va quand même créer la terre, il va créer le jardin, d'accord. Il va organiser tout cela. Et même en créant l'homme, il va le texte de la Genèse précise bien, il créa mâle et femelle. On a l'impression que tout ça, ça se fait à un seul moment et qu'ensuite, après, il n'est pas bon que l'homme soit seul et que tout de suite, finalement, il va créer la femme. Voilà. Il y a quand même une phase où Adam va se retrouver seul. Et cette phase-là, la Bible ne nous précise pas quelle va être sa durée.
D'accord.
Et c'est justement cette première phase qui est le début de tout. C'est qu'il y a un célibat chez Adam, qu'il faut reconnaître ici. Adam n'a pas été marié dès lors qu'il est né. Hein. Il a connu une phase de célibat. Et j'aimerais même le dire que ça a été voulu de Dieu, parce que Dieu aurait pu tout de suite créer Ève, sachant qu'il sait toutes choses. Hein. Dieu est omniscient, il savait très bien qu'il avait créé Ève. D'accord. Mais il a voulu donner la possibilité à Adam de ressentir le besoin de l'autre.
D'accord.
Hein, de ressentir le manque de l'autre, mais aussi de cheminer aussi seul, parce que cheminer seul n'est pas forcément et foncièrement une mauvaise chose, c'est une étape. Et c'est là que ça me permet de faire une transition pour pouvoir dire ici à ceux qui et celles qui m'écoutent en tant que célibataire, le célibat n'est pas une condamnation, n'est pas un châtiment de la part de Dieu, s'il vous plaît, c'est une très bonne nouvelle, c'est une étape, c'est un passage dans la vie. Vous n'êtes pas né avec voilà, quand on est bébé, on est nourrisson, ensuite voilà, on grandit, finalement on devient enfant, on devient adolescent, adulte, et puis voilà, ce sont des phases dans notre vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va injecter dans cette phase-là? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, j'avoue que ça, je suis toujours très surprise, parce que je n'ai moi-même pas vécu cela de cette manière. Le célibat était pour moi une phase très épanouissante. qui a été pour moi l'occasion de vivre beaucoup d'expériences, de faire beaucoup de rencontres, pas forcément amoureuses, mais des rencontres de la différence, ce qu'on appelle la rencontre de l'altérité. Et on va le voir dans la réalité aussi d'Adam, au travers des animaux. Il est seul, dans le sens qu'il est, il a pas un vis-à-vis comme lui, mais il est pas seul dans le monde. Il a des animaux autour de lui. Il rencontre les êtres différents. Et pour ceux qui livrent, qui lisent les écrits inspirés, on sait aussi qu'il est en contact aussi avec les anges. Donc, il est pas un être exclu, être,
abandonné, voilà, laissé
abandonné, pour compte. Marginal. Non. C'est un être social. Dieu l'a créé social. On n'est pas social parce qu'on se marie. On est social parce qu'on est en rapport et en relation avec les autres. Maintenant, l'objectif de Dieu, c'est d'emmener Adam à vivre une expérience autre, en tout cas plus intense, en objectif, en sens et en profondeur dans la relation avec l'autre. Et c'est là que le mariage va trouver son sens. Voilà. Le mariage est toujours dans l'optique que j'expliquais tout au départ, par rapport à l'objectif avec Dieu. Cette notion d'unité, les deux vont devenir une seule chair, on ne peut pas le vivre avec l'autre, même si c'est, enfin, avec tous les autres, j'ai envie de vous dire, même si c'est un vis-à-vis qui me ressemble, même si c'est un vis-à-vis différent aussi, que ce soit un animal, ou je ne sais quelle autre espèce, je dirais tout simplement que ce n'est pas possible d'entrer dans une communion qui est justement une communion qui va révéler Dieu. En trois personnes, Dieu est différent, mais en trois personnes, mais en même temps unis. Trois personnes différentes, mais unies. Et qui manifestent un principe de vie qui s'appelle l'amour, basé sur des règles et des réalités bien précises, pas que sur les sentiments. Voilà. Et ça, Dieu est en train d'emmener simplement Adam à passer un autre cap. Alors, pour moi, et là je m'adresse aux célibataires, c'est de pas forcément se cantonner sur une condition. Le célibat n'est pas une condition. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Dieu qui va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est donc pas bon que l'homme reste dans un état où il est, lui, face à lui-même. Il a besoin d'un vis-à-vis avec qui il va vivre 24 heures sur 24 et de façon intense des réalités qui vont lui permettre d'accéder à un autre level, un autre niveau d'expérience de l'amour. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Donc, pour moi, c'est de rassurer les
auditeurs,
les célibataires, en disant, et les auditeurs, mais spécifiquement les célibataires, que ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une destinée de vie, et ce n'est pas, quand je dis une destinée, c'est bien ça, je dis bien, on n'est pas appelé, en tant qu'humain, ce n'est pas le choix de Dieu de rester de façon définitive dans cette condition et dans, je dirais, cette étape de la vie qui s'appelle le célibat. Il faut passer à autre chose. Maintenant, ceux qui le sont aujourd'hui, ça ne fait pas d'eux des personnes qui sont exemptes de pouvoir vivre des degrés d'amour. C'est vrai qu'il leur manquera toujours celui-là. Ça, c'est sûr, parce que être marié, pour ceux qui le sont, et c'est un challenge de l'amour. C'est pas la même chose que quand on sait qu'on est chez soi, qu'on est face à soi-même et confronté avec sa propre organisation. C'est pas la même chose que lorsqu'on a un vis-à-vis face à soi. On a des enfants, c'est autre chose, hein. Et voilà. Mais je ne veux pas. Il faudrait qu'on ait plus de temps aussi pour développer là-dessus, pour parler vraiment du célibat comme étant une étape de sa vie qui nous amène à nous préparer au mariage. Maintenant, ce n'est pas un état de vie, et ni une condamnation, ni un état de vie qui doit perdurer. Si ça perdure, alors il faut aller chercher la raison. Voilà. Alors après, souvent, je m'entends dire que oui, j'ai le don du célibat. Non, enfin bon, ça c'est trop facile encore tout ça. C'est des langages que nous aimons, de lesquels parfois nous aimons nous cacher, parce qu'il y a bien des blessures aussi qu'on accumule durant notre enfance aussi, ou alors on a fait des rencontres amoureuses qui nous ont emmené à des déceptions et donc on n'en veut plus parler, on veut plus en plus parler ni de X ni de Y, on n'en veut plus. On se renferme sur soi-même et on se contente à penser que je me sens bien, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Mais en fait, non, il faut aller chercher
la cause
et surtout ne pas se fermer dans un état d'esprit qui bien souvent nous sclérose en plaques et nous empêche d'arriver à des dimensions dans lesquelles Dieu veut nous emmener. Parce que l'objectif, c'est pas nous, en fait, dans toute cette affaire-là. L'objectif, c'est Dieu et sa gloire, sa révélation sur la terre, pas que pour les hommes, mais aussi les habitants des autres mondes, les habitants célestes. Il a besoin d'être révélé. Il a besoin pour l'univers que Dieu soit révélé. Et il s'avère que Dieu a décidé que ça se fasse au travers des hommes et des femmes, et en particulier au travers des hommes et des femmes unis par les liens du mariage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mariage est autant attaqué, je le crois, quand on parle du pacte, quand on parle de mariage pour tous. Vous voyez bien qu'il y a bien un désir d'attaquer une institution divine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Pourquoi ? C'est qu'il y a une dimension divine. Et si on parle ici de la vie du chrétien, le chrétien doit se droit de s'intéresser à savoir quelle est la cause de Dieu dans le mariage. Non pas simplement de se dire « moi je pense », ça c'est une autre affaire, ou « moi je veux » ou « moi je ne veux pas ». Si on est vraiment dans une dimension de ce que Dieu veut et de révéler Dieu, il nous faut aller chercher pourquoi papa, notre papa a créé cette belle institution divine.
Ce que tu es en train de dire, c'est que tout chrétien devrait défendre le concept du mariage parce qu'il a été institué par Dieu afin qu'il soit révélé.
Ah oui. C'est là que ça prend le temps. Alors là, ça me permet d'arriver à la deuxième partie, dernière partie de la question que tu m'as posée quand tu disais la vie du chrétien. Le mariage est-il un passage obligé dans la vie du chrétien? Il faut maintenant s'intéresser à savoir quel est l'objectif de la vie d'un chrétien. C'est quoi? Pourquoi on est chrétien? Est-ce qu'on est chrétien parce que simplement on veut être sauvé? Est-ce qu'on est chrétien parce qu'on veut aller au ciel? On est chrétien parce qu'on veut être pardonné de nos péchés? On est chrétien pourquoi? À quoi ça sert la vie chrétienne? Alors, ça serait long à débattre, mais je vais juste résumer en disant la vie chrétienne n'est pas simplement de dire « je crois en Dieu », puisque même la Bible nous dit que les démons, ils croient en Dieu. Ça ne change rien, c'est pas une question de croire en Dieu, c'est une question de révéler qui est Dieu. Un chrétien, il est celui qui révèle la vie du Christ. Or, la vie du Christ est basée sur, justement, le principe de l'amour et de l'agapé. De pas n'importe quel amour, c'est de l'amour agapé, s'il te plaît. Donc, tu comprends que là, un chrétien qui a pour objectif de révéler l'agapé qui n'est autre que Dieu, là, on parle de Corinthiens 13, l'amour ne se vante pas, l'amour pardonne tout, l'amour ne voilà. Donc, ça, c'est Dieu. Voilà la réalité de qui est Dieu. Donc, la vie d'un chrétien se doit d'aller dans cette dimension-là et doit s'intéresser à tout ce qui lui permettra d'accéder à cette vie qui a été celle de Christ pour pouvoir la reproduire, pour pouvoir vivre de la même vie que Dieu a été, que Christ a été sur la terre et qui représente finalement le Père. Et or, le mariage, c'est tout à fait l'objectif du mariage, c'est de révéler cet amour-là, cet amour agapé. Donc quand quelqu'un me dit « oui, je ne veux pas être mariée », ce que j'ai longtemps dit moi-même, quand je n'avais pas compris tout cela, ben, je dis à un moment donné, il faut pouvoir entendre ces réalités-là, pour pouvoir changer notre état d'esprit. La société dans laquelle on est nous apprend à vivre en autonomie, nous apprend à vivre dans une espèce d'indépendance où on n'a pas besoin de l'autre, où on peut se suffire à soi-même. Mais justement, la vie du chrétien et la vie de l'agapé, c'est la vie de la dépendance à l'autre. C'est-à-dire, je dépends de Dieu et ma vie, ma vie ou les autres dépendent de ma vie, de ce que j'y apporte. Et c'est dans le mariage que ça se vit aussi, cette notion d'interdépendance. Pas pour profiter de l'autre, pas pour exploiter l'autre, mais au contraire, pour pouvoir vivre la communion qui n'est autre que la même communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, je donne une dimension aussi spirituelle à tout ça. Mais voilà, c'est ça aussi le mariage. Donc, un chrétien se doit s'intéresser à tout ce qui participe à révéler Dieu. Or, justement, le mariage est l'espace, le lieu par prédilection. Je dirais, je ne peut-être pas par prédilection, le lieu, oui, je vais dire par prédilection que Dieu a choisi, même après le péché. Vous vous rendez compte? Même après le péché, Dieu ne l'a pas supprimé, cette institution. Il savait très bien que ça serait des pécheurs qui entreraient dans ce projet-là, finalement, au lieu de que ça soit des saints, comme Adam et Ève au départ. Ça sera des pécheurs, il ne l'a pas éliminé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, malgré tout, même si ce sont deux pécheurs qui vont entrer dans le mariage, je relève le défi. Dans des cœurs qui sont appelés à ne produire que le péché, à être égoïstes, centrés sur eux-mêmes, je relève le défi par l'influence du Saint-Esprit et par la soumission à ma parole de pouvoir produire en eux les fruits de l'amour et de la loi de l'amour. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Placé là-dedans, vous comprenez que le mariage, c'est pas juste une affaire, j'ai envie, je souhaite pas, ou j'ai envie un moment, ou pas demain, je divorce quand j'en ai envie, c'est pas ça. C'est beaucoup plus vaste. C'est un défi que Dieu relève. Devant qui, d'après vous? Devant le Lucifer. Comme pour Job, on l'a suivi dans l'étude du trimestre dernier, Lucifer relève des défis devant Dieu. Et Dieu lui dit, d'accord, vas-y, je te l'accorde. Eh bien, devant nous aussi, face à nous, Dieu relève des défis. Est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont croire que le mariage a une telle importance, qu'ils vont pouvoir volontairement s'engager, tout en ayant conscience de leur humilité, enfin de leur faiblesse, mais s'engager dans une soumission au Saint-Esprit, s'engager dans une dépendance à Jésus et dans la parole de Dieu, de pouvoir relever le défi que, unis, dans un même foyer, de manifester l'amour de façon constante. Pas l'amour où je t'aime à la folie, je te le dis matin, midi et soir, mais l'amour où je suis au service, à ton service, où je m'abandonne à toi, où je t'élève, où je te fais des compliments, où je suis là pour te permettre de grandir, où je suis dans cette franchise, dans cette fidélité, où je suis dans le pardon, dans la foi avec toi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont capables de le faire? Dieu dit oui. Dieu dit oui. Et à qui il regarde? Je pense qu'il regarde toujours les chrétiens. Il regarde les églises. Malheureusement, c'est pas ce qu'on voit, hein. Ça, c'est sûr. Mm-hmm. Moi qui suis conseillère conjugale et familiale, je vous assure que ce n'est pas ça. Et ce n'est pas le mariage qui a un problème. Ce n'est pas le mariage. Ce qui est un problème, ce sont ceux qui entrent dans le mariage et qui ne sont pas, je dirais, remplis de cette vision des choses. Qui le sont dans un esprit centré sur eux-mêmes pour être heureux, pour avoir beaucoup d'enfants, pour voyager, pour avoir une maison. Voilà, j'ai envie de ça. Mais non, mais c'est pas pour ça que le mariage a été créé. Le mariage a été créé comme étant un espace où justement l'amour se... Simplement dans cette dernière génération avant la fin de cette terre, ben on sait que l'iniquité va s'accroître. Mais Dieu a dit, ben oui, il veut quand même persister à croire que l'amour se manifestera quand même. Et il compte sur nous, les chrétiens. Nous ne pouvons pas laisser Dieu rester là, pantois devant son ennemi, qui dit, mais regarde, tu as créé le mariage, mais regarde, personne ne veut y rentrer déjà. Et deuxièmement, pour ceux qui y rentrent, regarde comment c'est un désastre. Alors qu'ils s'organisent bien pour pouvoir les détruire, ces mariages-là. Mais oui, mais en même temps, il faut aussi comprendre que nous laissons beaucoup de portes ouvertes à l'ennemi. Nous entrons dans ce mariage, nous ne sommes pas préparés, on y va comme ça, on fait des choix de conjoints qui ne sont pas adaptés. Oh mon Dieu, que puisse Dieu nous sensibiliser sur le fait que le mariage, dans cette phase-là, je dirais de l'histoire de l'humanité, demeure aussi important que quand Dieu l'a créé en Éden.
Peut-être même plus.
C'est très important. Comme le sabbat, d'ailleurs, le sera aussi dans cette dernière génération. Et le sabbat l'a été au début aussi. Donc voilà.
Et justement, une question que certains jeunes se posent, c'est comme tu le dis, au vu de l'histoire, on arrive un petit peu dans le dernier carcan de l'histoire de l'homme. Alors, oui. Au vu du péché qui s'accroît, au vu des, j'ai envie de dire, des attaques, puisque tu dis que c'est par rapport aux portes ouvertes, par rapport aux séductions, par rapport aux faiblesses, on voit de plus en plus de jeunes qui redoutent un petit peu ou qui vont dans le mariage à reculons. Quel est le message qu'on peut leur dire? Parce que ce que moi j'entends, c'est qu'avant de se lancer dans le mariage, entre guillemets, il faut déjà savoir où est-ce qu'on en est spirituellement avec Dieu. Il faut déjà savoir si je veux remplir, comment dire ça? Si, enfin, quelle est ma mission? C'est bien le point que tu soulevais.
Exactement. Tout à fait. Et j'aimerais simplement rassurer, j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, il y a autour de vous, vous voyez beaucoup de mariages qui fonctionnent pas. Et c'est vrai. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup de mariages qui fonctionnent, où les gens sont heureux. J'aimerais le dire. Il y a des mariages où les gens sont, qui y vivent, qui les composent, sont heureux. Amen, alléluia. Heureusement, s'il vous plaît. Heureusement. Sinon, ça serait, voilà. Mais maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui a fait que ça fonctionne pour eux. Mmh. Il faut pouvoir prendre le temps d'observer pourquoi ça fonctionne pas ailleurs. Et un jeune qui est intelligent, et moi, je crois beaucoup dans la jeunesse. Je crois que, d'ailleurs, on leur fait pas suffisamment confiance, bien souvent, et qu'on a tendance à les stigmatiser, mais ils sont bien plus intelligents que beaucoup ne l'ont été auparavant. Il faut pas, je dirais, perdre de vue cet aspect-là. Que le jeune puisse prendre conscience que si Dieu a créé quelque chose, il l'a pas créé pour sa perte, il l'a créé pour son bien-être. Mmh. Et que si aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent pas, ce n'est pas à cause de Dieu, ce n'est pas à cause de ce qu'il a créé, c'est à cause de ceux qui sont et qui vont manquer de sagesse. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, entrer dans le mariage pour les mêmes raisons qu'on y est rentré il y a 20 ans, ou qu'on y est rentré il y a 50 ans, ou il y a 2 siècles, ou il y a 3 siècles, ou même au début de la création, quand nous arrivons à la fin de l'histoire. D'accord ? Ça, c'est déjà une chose. Le mariage aujourd'hui est forcément à notre portée. Deuxièmement, on n'entre pas dans un mariage si on ne sait pas qui l'on est. C'est pas possible. C'est pas une moitié que je vais rencontrer et l'autre moitié qui m'attend quelque part et finalement on va faire un tout, une entité et puis on va penser que ça va fonctionner comme ça et ça en sera heureux. C'est pas possible. Il faut être un être fini en soi. C'est-à-dire, quand je dis fini, être arrivé vraiment à l'âge adulte. Or, l'adulte, c'est celui qui se prend en charge, c'est celui qui est responsable. Être responsable, c'est être en mesure de répondre de. Responsable, répondre, c'est répondre de qui je suis, où je vais dans la vie, pourquoi je vis sur la terre, quelle est ma mission sur cette étoile. Je dois être en mesure de pouvoir répondre à cette question-là sans que je n'ai besoin de quelqu'un, d'un vis-à-vis en face de moi. Car Dieu avait déjà donné une mission à Adam avant même que Ève ne soit créée. On est bien d'accord, il devait s'occuper du jardin. Il avait donc une mission. Maintenant, lorsque je sais qui je suis, je dois être en mesure de pouvoir, avec la sagesse de Dieu, et là, ça nécessite d'avoir une relation avec Dieu, une relation vivante. Le choix du conjoint va être déterminé au degré de ma relation avec Dieu. Si vous avez une mauvaise spiritualité, vous ferez un mauvais choix de conjoint à 100%. Je suis ferme là-dessus. Si vous avez une mauvaise spiritualité, c'est-à-dire une spiritualité du sabbat matin, ou du dimanche, voilà, je sais pas s'il y a des auditeurs qui ne sont pas adventistes, dimanche matin. Vous allez à l'église et puis bon, alléluia, amen Seigneur, gloire à toi, je rentre à la maison et je continue ma vie. Vous pouvez être sûr que vous ferez un choix en relation avec votre degré de spiritualité du moment. Si votre spiritualité est intense, et il le faut pour cette ce type de besoin de votre vie, parce que c'est quand même pas rien de se marier avec quelqu'un quoi, avec qui on va vivre des années, c'est pas n'importe quoi quand même, ça demande un temps. On peut pas s'engager comme ça, un petit peu dans la chance. Donc, c'est là où justement doit se redoubler les temps de prière, de louange à Dieu, de je dirais d'intercession. Il faut prier pour la personne que Dieu a certainement va vous permettre de rencontrer. Il faut pouvoir être en mesure vous-même d'entendre la voix de Dieu. Mais pour ça, il faut faire du silence dans sa vie. Il y a des choses qui vont court-circuiter et il y a un être qui va s'organiser pour vous court-circuiter sur votre parcours pour arriver à rencontrer cette personne que Dieu vous permettra de rencontrer. Donc, il faut pouvoir être disponible pour Dieu. Et ça, c'est pas, ça se vante pas. Il y a une méthode. Maintenant, quand ça, c'est tout ça est fait, il faut pouvoir avoir aussi des critères. Parce que si vous avez une mission, vous ne pouvez pas aller choisir quelqu'un, parce que j'aimerais bien rappeler ici que le choix du conjoint, c'est pas Dieu qui le fait pour vous. C'est Dieu nous a toujours laissé la liberté de choisir. D'accord ? Donc, le choix doit forcément faire référence, à un moment donné, à des critères. On étudie les choses, on observe. Qu'on ne vienne pas me dire simplement, oui, j'ai pensé ou Dieu m'a dit. Dieu ne dit rien à qui que ce soit. Dieu présente. Bibliquement parlant, ça se vérifie aussi. Quand Adam va à la rencontre d'Ève, en tout cas, Dieu vient présenter Ève à Adam, il la présente, il ne l'impose pas à Adam. Il ne lui dit pas, tiens, voici, prends.
Donc, ce que tu dis là aussi, voilà. C'est que tout à l'heure, tu disais que Dieu avait laissé un temps pour que Adam puisse comprendre par lui-même qu'il avait... un manque, tu essaies de nous dire que le célibat est cet espace-là où il faut se poser des questions sur ces critères de choix du conjoint.
Complètement, complètement. C'est le temps pour ça. Vous voyez comment Dieu, il est bon? Il nous donne du temps. C'est comme une femme qui va avoir un enfant, ben, elle n'est pas enceinte et puis demain elle accouche. Elle est enceinte et elle a 9 mois pour s'y préparer. Elle a un temps, et pas qu'elle, l'époux aussi, la maisonnée doit se préparer, c'est toute une ambiance, la famille doit se préparer à l'idée d'eux. Vous comprenez, Dieu implique tout ça, il prend compte tout cela. Donc le célibat, c'est ça, que les hommes, les jeunes femmes, les jeunes hommes saisissent. Ce n'est pas le temps d'aller vagabonder, hein. C'est le temps de se poser les vraies bonnes questions sur soi, car ce temps-là, si vous ne le saisissez pas, ça sera trop tard après. Mmh. Il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Ben, le temps, je dirais, du célibat est le temps de la semence. Voilà, de la préparation même, j'ai envie de vous dire, peut-être les fiançailles de la semence, et je prendrai le cas du célibat, le temps de labourer la terre. Voilà, il faut labourer la terre, il faut réveiller cette terre-là, il faut la retourner. Après l'éducation que l'on a eue, essayer de voir ce qui ne va pas, faire un travail sur soi, se poser des vraies bonnes questions sur sa vie, où on va, pourquoi on irait, et pourquoi pas, qui l'on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et ça, on est en droit de pouvoir se les poser, ces questions-là.
Alors, mais moi, ça demande du temps. J'ai une petite question. C'est vrai que, alors, bon, on est adventiste, même si on sait qu'il y a des personnes qui ne sont pas adventistes qui nous écoutent. Dans nos églises, il y a une institution, entre guillemets, qui s'appelle la préparation au mariage. Ma question, c'est, ne faudrait-il pas, du coup, s'intéresser à cette préparation au mariage avant même d'avoir choisi son conjoint?
Alors là, tu m'ouvres, je dirais, une autoroute de...
Parce que, par exemple, voilà. David et moi qui sommes mariés, on nous a posé des questions très personnelles durant la préparation au mariage. Et là, je parle de questions sur notre maturité spirituelle ou bien des questions sur est-ce qu'on a fait un état des lieux de notre éducation, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. Et c'est vrai que, bon, la préparation de mariage, bon, même si on dit un mois, généralement, bon, c'est quelques séances. Donc, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faut attendre d'avoir trouvé son conjoint pour s'intéresser vraiment à ce que c'est le mariage, ce que ça implique? Parce que ce que j'entends de ce soir, c'est que c'est une réflexion sur, limite, des années et non pas des semaines alors qu'on a déjà choisi son conjoint.
Complètement, complètement, Cathy. Alors, le mémoire que j'ai eu l'occasion d'écrire, c'est un sujet qui me passionne. Là, tu abordes un sujet qui, pour moi, est un sujet passionnant, parce que forcément, parler du mariage, c'est indéniablement parler de sa préparation. Et là, je suis pas en train de parler de préparatifs. Parce que les préparatifs, c'est tout ce qui va être l'organisation du mariage, la salle, etc.
Cérémonie,
donc, ça,
etc.
Je veux dire, la cérémonie, mais malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en même temps qu'on est en train de faire les préparatifs, on fait la préparation, c'est pas possible.
Ouais.
C'est pas cohérent. Alors, dans ce mémoire, je disais que je suis en train de développer, et j'invite les auditeurs à y jeter un coup d'œil s'ils le souhaitent, on le trouve sur Internet. Je développe trois concepts. Une préparation à long terme du mariage, une préparation à moyen terme et une préparation à court terme, et j'arrive même parfois à une préparation immédiate. Alors, qu'est-ce que je suis en train de développer dans ces quatre aspects? Je développe le fait que la préparation, par définition, elle commence déjà à l'enfance. Un enfant qui grandit dans une maison, quel qu'il soit, est en train déjà de se préparer au mariage. Alors, vaut mieux que ça soit un beau foyer, oui, équilibré, oui, voilà, pour qu'il puisse être un être le plus propice au mariage, je dirais, épanouissant, et qui le sera aussi pour son partenaire. Selon qu'il va voir sa mère et son père s'aimer, comme j'étais en train de parler du principe de l'amour, qui se donne, qui font un amour tendre, où chacun des membres se parle avec respect, où on est au service, on fait la vaisselle, où on range les vêtements, où voilà, on n'a pas de préférence, où on est ordonné, voilà, même s'il y a des conflits, on arrive à les gérer, on se pardonne. Ben, cet enfant-là, il est déjà en train de se préparer au mariage.
Il observe.
Parce qu'il observe, exactement. Il observe, donc il va reproduire naturellement ce qu'il a vu. C'est ce qu'on appelle le principe du mimétisme. Il va mimer ce qu'il a vu. Donc, c'est ce qu'on appelle la préparation à long terme. Maintenant, la préparation la préparation à moyen terme, ben, c'est cette préparation qui va commencer particulièrement à l'adolescent. Là maintenant, il s'agit pour les parents, mais pas que les parents, puisque peut-être que tous ne peuvent pas répondre à cela. Ils ont été eux-mêmes défaillants, ils n'ont pas reçu, enfin voilà, pour X ou Y raison, ils n'ont pas le temps, ils travaillent. Et c'est là qu'il serait bien d'avoir des organismes qui soient créés, en plus de l'Église, si ce n'est l'Église, mais en plus de l'Église, pour permettre à nos jeunes adolescents de pouvoir avoir un espace où, sans qu'on leur dise qu'ils ont une date où ils vont se marier, puisque par définition, ils n'en ont pas, j'espère pas, parce que c'est pas l'âge, mais où néanmoins, ils sont dans une espèce de formation qui leur permet de réfléchir sur qui ils sont. Je suis un garçon, comment je fonctionne? Je suis une femme, comment je fonctionne? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Quels sont mes talents? Quelles sont mes compétences? Quels sont mes dons? Quel est mon tempérament? Toutes ces choses qui sont hyper importantes de savoir avant de pouvoir faire le choix du conjoint. Or, c'est bien à l'adolescence que bien souvent, ben, l'éveil amoureux se fait, l'éveil sexuel aussi se fait. Donc, il est important de penser déjà à cela pour pouvoir orienter les jeunes sur, indirectement, sans leur mettre de pression en leur disant vous allez vous marier, donc on va vous former, etc. Non, ça devient une formation individuelle, une formation à la personne. On apprend à savoir qui l'on est. Et puis, on sait aussi ce qu'on a envie de devenir demain. Qu'est-ce qu'on veut faire pour Dieu? Spirituellement, on vit des expériences aussi avec Dieu. D'ailleurs, c'est à cette période-là que bien souvent, beaucoup font de belles expériences spirituelles. C'est le meilleur timing que Dieu a eu besoin. D'ailleurs, à l'âge de 12 ans, rappelez-vous que Jésus, ben, il s'est positionné à l'âge de 12 ans. C'est à l'adolescence. Tout ça, ça se fait à ce moment-là. Maintenant, après, lorsque le jeune, il a mûri, parce qu'il devient homme, parce que, bon, ben, un jeune homme, parce que, bien sûr, ben, l'amour est là, il va avoir forcément un esprit beaucoup plus critique que simplement ben, se dire qu'elle est belle, qu'elle est jolie, ou qu'il est beau, qu'il est joli, j'aime bien être en sa présence. Il aura d'autres éléments pour pouvoir juste être dans cette optique de sélection. Non ? Quand on va un peu plus loin, la préparation maintenant à court terme, et là, je ne parle pas de préparation à 3 mois avant le mariage. Je parle de préparation à partir du moment que l'on se fréquente. Et peut-être qu'on pourrait parler, pour ne pas mettre de pression à ces jeunes-là, de formation à la vie à Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se préparer à se marier. Voilà. On n'est pas en train d'essayer d'avoir une espèce de validation qui nous donne droit de nous marier. C'est pas ça. On rentre dans une formation qui nous apprend à savoir qu'est-ce que va m'impliquer la vie à deux. Et je pense que c'est là que beaucoup ont été trompés malheureusement. Ou on leur a fait miroiter, ou eux-mêmes se sont miroités parce que les films hollywoodiens, les belles histoires d'amour, il est heureux, le prince charmant, Cendrillon, tout ce que vous voulez, ben, finalement est bien intégré dans notre conscience collective et nous donne à penser que le mariage, par définition, c'est super beau dès lors qu'on le sème. Mais le problème, c'est que le mariage, c'est pas l'amour simplement. C'est apprendre à vivre avec un vis-à-vis qui est différent de moi et dont je dois manifester, pour lequel je dois manifester un amour agapé. Et ça, ça s'apprend. D'autant plus que l'on est pécheur. À l'époque, quand Adam et Ève étaient parfaits encore là, ils ont pu s'en sortir. Mais maintenant que ça fait 6000 ans de péché dans lequel on est en train de baigner, en particulier dans ce monde de l'individualisme, je peux vous assurer qu'une formation à la vie à deux, ça ne dure pas que 2 mois avant le mariage. C'est au moins 1 an. Au meilleur des cas, 2 ans. Le temps des fréquentations. Et c'est là qu'on va pouvoir se poser les vraies bonnes questions et se rendre compte si celui que j'ai a priori choisi pour aller jusqu'au bout, ben il est mariable déjà, parce qu'on peut être non mariable d'ailleurs. il est mariable. Ou si je peux me marier, il peut se marier avec moi et lui, moi avec lui. Est-ce que ça peut matcher ensemble? Il faut être honnête. Parce que si on voit des choses à l'avance, faut pas penser que ça va disparaître après. C'est là avant, ça va l'être d'une certaine mesure. Et s'il n'y a pas eu de conversion, ben, alors là, c'est encore pire. Donc voilà. C'est le temps, ce que on appelle, dans notre langage à nous, dans notre organisme, la formation à la vie à deux. Mais que cela, au mieux des cas, puisse être fait en dehors des préparatifs du mariage. Parce que les préparatifs, vous savez, quand vous avez déjà versé des armes pour votre location de salle et de robes et de costards, ben, même si vous vous rendez compte que monsieur ou madame n'est pas mariable, ben, c'est difficile de faire marche arrière. C'est difficile de pouvoir dire, ben non, on n'y va plus. Donc, on se retrouve dans une espèce de
résignation.
De résignation, merci pour le terme. Et on y va, en se disant, bon, ben, ça risque de changer, en se disant que, bon, ben, de toutes les façons, il y a le divorce. Oui, mais le problème, c'est que le divorce, ça coûte aussi cher que le mariage, mais ça coûte extrêmement à l'âme, à l'esprit et au corps, parce que ça épuise. et qu'on peut ne pas se remettre d'un divorce. Ça, on oublie de le dire. Ça semble facile. Ça semble être une porte de sortie. Mais ça brise des vies. Ça brise des âmes. Et je me dis que c'est dommage qu'on y rentre comme ça, sans avoir conscience de ce que c'est. C'est une responsabilité musulmane. Et maintenant, je parle aussi de la préparation immédiate. Cette préparation immédiate, c'est-à-dire ben, celle que l'on a à quelques jours du mariage, où il faut aussi savoir, avant le mariage, savoir faire des choses, vivre des choses intenses pour pouvoir intensifier l'union des deux âmes qui vont s'unir. Et voilà, c'est tout un programme. Donc, la préparation au mariage, je pense que, malheureusement, je l'affirme dans cet écrit, dans nos églises comme ailleurs aussi, peut-être dans certaines autres églises, c'est peut-être un peu plus considéré, mais chez nous, il y a à revoir. Il y a vraiment à revoir.
Alors Francine, nous avons eu des retours d'auditeurs, mais juste avant, dans ce que tu disais, j'ai remarqué que tu as envoyé plusieurs bouteilles à la mer, et donc je crois comprendre donc tu as déjà pas mal réfléchi à tout ce processus de préparation à long, moyen, court terme. Donc on y reviendra juste à la fin pour que tu puisses nous en parler. Est-ce que je me suis trompé ou pas?
Tu parles de quoi? Tu parles
de des organismes mis en place.
Oui, bien sûr. Bien
d'accord.
Sûr.
Donc on va en parler. Alors nous avons eu des retours, des questions d'auditeurs. Donc je laisse Cathy commencer.
Alors maintenant qu'on a répondu. Alors j'ai reçu plusieurs questions, mais j'estime que tu y as déjà répondu. Il y a une dernière question par contre qui est tombée et je lis: en ce temps de l'histoire du monde, tandis que les scènes ultimes touchent à leur fin et que nous approchons plus que jamais du temps de trouble, moins il y aura de mariages, mieux ce sera tant pour les hommes que pour les femmes. C'est une citation d'Ellen Genway dans Testimonies for the Church. Alors moi j'ai les références anglaises. Pas forcément française. Alors, j'aimerais te laisser répondre, parce que comme on l'a dit, en plus, tu as fait des études au niveau de la théologie. Qu'est-ce qu'Ellen White entend par histoire de période de fin du monde?
Alors les fameux textes comme ce que tu viens de me lire, je n'aime pas souvent faire de commentaires dessus. Par sortie de leur contexte, on peut les faire dire tout ce qu'on veut.
Tout ce qu'on veut.
Voilà. Donc, je suis très prudente par rapport à l'utilisation de textes de ce type, sachant qu'elle peut dire ça dans tel livre, elle peut dire complètement le contraire dans un autre livre.
Oui, c'est vrai, dans un autre livre.
Voilà, ça dépend de à qui elle s'adresse, à quel moment, pourquoi, et voilà. Donc, par exemple, un célibataire qui va tomber là-dessus va se dire, ben voilà, ben moi, il y a deux mariages, moi, je vais me marier, donc c'est super, Ellen White dit. Eh ben non, je crois que c'est trop facile. Il faut aller au-delà de tout ça. Il faut comprendre quel est le projet de Dieu. Et là, si vous voulez, on pourrait se redonner un autre rendez-vous et je reviendrai dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment répandre au maximum parce que nous avons des choses à dire en ce qui concerne le mariage. Le mariage n'est pas à mettre au tiroir. Parce que là où notre société cherche à justement lui ôter toute sa dimension divine, il faut bien que de l'autre côté, il y ait une contrepartie. Elle est où cette contrepartie de ceux qui vont se décider de ne pas se marier? Alors bon, j'ai pas envie de partir sur une défense, être militaire, militantiste là-dessus. Mais voilà, il y a quelque chose. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Il faut pas l'oublier. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et le mariage est au plein cœur de cette guerre.
Alors, j'ai une petite question, certainement de d'une célibataire. Alors, au début du débat, on a dit que Dieu utilisait l'espace du mariage pour révéler sa personne agapée, son amour. Et j'ai une petite question. Dieu ne se révèle-t-il pas aussi dans le célibat ou à travers les célibataires? Alors, moi, ce que j'ai entendu de ce que tu as dit, c'est que le célibat est une étape, en fait. Ce que tu disais, c'est que c'est une étape qui n'est pas destinée à durer éternellement.
D'accord.
Donc, ce que j'entends moins, voilà, c'est que Dieu se révèle à différentes étapes.
Alors, j'aimerais juste revenir sur la question que tu as posée par l'auditrice ou l'auditeur qui a laissé cette question à la fin du temps. Si Dieu a eu un plan pour l'homme au travers du mariage, ce projet perdure jusqu'à la fin. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne revient pas sur certaines choses. Il ne revient d'ailleurs sur rien. D'accord ? C'est pas lui qui change les choses. C'est nous qui les changeons. Et nous sommes, quand je dis nous les hommes, ou mieux, dirigés par l'ennemi qui est contre lui, qui change l'optique de Dieu. Donc, la fin des temps est un lieu, est un temps où la gloire de Dieu doit resplendir. Or, j'ai dit au début que le mariage est le lieu de révélation de Dieu. La gloire, c'est pas juste glorifier Dieu, « Oh Seigneur, tu es grand, tu es beau. » C'est dire que c'est mettre la lumière sur qui est Dieu. La gloire, c'est mettre la lumière. Tourner les projecteurs sur Dieu. Comment allons-nous faire cela? Ce n'est pas, comme je l'ai dit, simplement dans la louange. Ça ne passera pas simplement dans le fait de se rendre à l'église. De toutes les façons, à la fin des temps, nous ne pourrons plus nous y rendre. Donc ça veut dire qu'il y a bien un autre espace où Dieu va choisir de mettre la lumière sur lui. Il s'avère qu'il a choisi de le faire au travers de foyers dans lesquels résident des hommes et des femmes. Le même foyer qu'il a créé au début sera le même qu'il va trouver à la fin. Je suis désolée, je n'ai rien contre les célibataires. Et j'entends bien qu'il y a besoin de les prendre en considération. Je n'ai rien contre eux, j'ai été moi-même célibataire. Je l'ai été jusqu'à l'âge de 32 ans. Et j'ai subi dans mon être le plus profond, le ressenti de la solitude. J'ai même crié à Dieu, j'ai dit « Seigneur, s'il te plaît, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que j'en peux plus. » Donc je comprends. Simplement, je dis ici que c'est pas moi qui l'ai dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas moi, c'est papa. C'est qui papa? Le Dieu de toute sagesse, qui comprend toute chose, qui voit toute chose, il le dit. Pourquoi je le dis ici? La vie célibataire, comprenez-moi bien, je pars avec vous depuis l'éducation. Je pars de l'éducation d'un enfant lambda, qui vit dans une famille lambda chrétienne. Oui, maman, papa sont plus ou moins spirituels. Je dis bien plus ou moins spirituels. Ils vont à l'église, ils essayent de vivre une vie correcte. Il y a des disputes. Cet enfant qui est né et qui était tout mignon, tout beau, il n'empêche qu'il reste un enfant centré sur lui-même. Il est un enfant pécheur. Il n'est pas pécheur parce qu'il a péché. Il est pécheur parce qu'il a une nature qui le pousse à être centré sur lui-même. Simplement, les parents qui ont eu cet enfant, qui peut être un enfant unique, je prends le cas d'un enfant unique, vont faire de cet enfant un enfant qui est le centre du monde. Parce que, mon Dieu, on l'a eu, finalement, c'est super, c'est voilà, merci Seigneur de ce don-là que tu nous as fait. Donc, c'est un enfant qui va être privilégié par définition. Un enfant à qui on ne saura pas dire non. Un enfant qu'on ne saura pas cadrer. On ne sera pas canalisé. Cadrer, ça signifie quoi? Canaliser en lui l'égoïsme qu'il a naturellement, qui va se développer. Moi, non, c'est à moi, rien qu'à moi. Tout est à lui. Il va avoir du mal à se socialiser avec l'autre. On va essayer de le mettre à l'école. Enfin, on le mettra à l'école logiquement. Mais à l'école, c'est pareil. On vit dans un système où on éduque les enfants à penser à eux-mêmes, à être au-dessus des autres, le système de compétition, il faut être plus grand que l'autre. On n'est pas dans l'altruisme, hein, forcément, dans l'école, dans notre système scolaire. On n'est pas dans l'altruisme. Il faut être clair là-dessus. Parce que cet enfant, qui pourtant est chrétien, hein, j'entends bien, hein, on est dans un système d'un enfant qui est éduqué dans une famille chrétienne. Donc jusqu'à maintenant, parce que les parents n'ont pas été forcément sensibilisés sur la question, que l'éducation ne vise pas simplement à donner à manger à ses enfants, l'emmener à l'école et essayer de leur permettre d'avoir une carrière, mais que l'éducation va viser à pouvoir canaliser chez l'enfant son caractère naturellement prompt à être égoïste pour pouvoir produire le caractère de Christ en lui, c'est-à-dire l'agapé. Ces parents-là n'ont pas conscience de ça. Finalement, l'adolescent va grandir. Ben, l'adolescence, c'est l'explosion du moi. On est le centre du monde, on se sent plus fort que personne. Enfin, bon, voilà, c'est l'explosion. Tout ce qui a été semé pendant l'enfance va trouver son explosion à l'adolescence. Ce même enfant va grandir, il va devenir un jeune adulte. Un jeune adulte qui va avoir sa voiture, sa maison, son travail, ses amis. Il va sortir, il va vivre encore centré sur lui-même. Même s'il a des amis, mais centré sur lui-même, c'est quoi? Il peut rendre service, c'est pas ça le problème. Mais finalement, c'est, voilà, il va développer des manies, il va développer des habitudes qui vont manifester l'égoïsme. Le problème avec cette affaire, c'est qu'il est même pas conscient de ça. Parce qu'il n'est pas confronté à l'autre en permanence. Déjà, il vit chez lui. Ou s'il vit chez maman et papa, il a sa chambre. Il est dans sa chambre. On rentre pas dans ma chambre. Il a son périmètre, son espace. Et puis, il faut pas lui dire ceci, il faut pas lui dire cela. Il a ses habitudes. Maman cuisine pour lui. Maman ceci, maman cela. Enfin, je suis en train de vous parler de cas que je rencontre, quoi. Voilà. Ce sont ces jeunes-là qui vont se marier. Donc, par définition, je suis désolée, mes chers aux auditeurs célibataires, je l'ai été. Et c'est quand j'ai été mariée que je me suis rendu compte à quel point j'étais égocentrée. Pourtant, je pensais que j'étais une vraie chrétienne qui était dans le don d'elle-même. Tout ce qu'on nous raconte le sabbat matin, hein, dans nos livres. On pense toujours qu'on lit, on pense qu'on a un problème en soi. Parce qu'on est pas mis dans le cas, on n'est pas exposé. Et c'est pour ça que Dieu va donner l'occasion et nous permettre de passer à un autre niveau d'épuration du moi. Le mariage, c'est un lieu d'épuration du moi. Et je rappelle que nous n'y rentrerons pas si nous ne rentrerons pas au ciel si nous ne sommes pas épurés de ce moi-là, parce que c'est justement ce moi-là qui a été expulsé au travers de Lucifer du ciel. Maintenant, le célibat, il y a d'autres manières, effectivement, pendant cette période où quelqu'un qui a pris conscience de ça et qui veut travailler sur cette réalité de l'égoïsme en lui peut s'exposer à le travail, le fait d'être à l'église, d'être investi à l'église. Et bien souvent aujourd'hui, plus personne ne veut s'investir à l'église parce qu'il y a des problèmes à l'église, on a des conflits avec XY, on veut éviter des conflits, donc du coup forcément on est encore exclu, on s'exclut. Et plus on est exclu, moins on est confronté à la différence. Moi, on est confronté à soi-même et finalement, soit face à l'autre et voir un peu là où j'ai un problème. On va voir la paille dans l'œil de l'autre, mais on verra pas la poutre. Il y a besoin de pouvoir être exposé à ça. Et je pense que la vie de à l'église, la vie associative, la vie au travail, et vous remarquez bien d'ailleurs au travail, bien souvent vous allez entendre des témoignages, j'ai des problèmes avec mes collègues, j'ai ceci, j'ai cela, pour les célibataires comme non célibataires. Mais c'est vous dire que Dieu utilise tous ces espaces-là pour épurer notre caractère. Parce que ça fait, c'est un caractère qui doit être épuré. Et puis aussi le fait d'avoir un animal. À la rigueur, un célibataire, j'ai presque envie de vous dire, ce droit d'avoir un animal d'accompagner chez lui, comme ça, il expérimentera déjà le fait de ne pas vivre pour lui-même et d'être exposé à la différence déjà, à l'écoute de l'autre, et que cet autre-là serait un être différent de lui, mais voilà, d'être dans l'altruisme, dans le don de soi. Il y a différentes méthodes que je pense aujourd'hui qu'on peut encore exploiter au-delà du mariage ou pour se préparer au mariage, qui peut nous donner de façon consciente à nous préparer à préparer un caractère qui soit éligible pour le ciel.
D'accord.
C'est ça, en fait.
Que peut-on dire, là, de façon très concrète et rapidement pour terminer, aux célibataires qui ont écouté ce soir et qui auraient peut-être l'impression d'être, d'avoir un problème ou de se sentir des demi-humains ou des champs non labourés, etc., etc. Que peut-on leur dire, là?
Je pense avoir répondu à ça. J'espère avoir. Je dis simplement, bonne nouvelle, vous êtes célibataire. C'est une bonne nouvelle, génial, super. C'est un temps qui vous est donné. Que vous ayez 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, c'est un temps qui vous est donné pour maintenant. C'est se poser les vraies bonnes questions. Si vous l'êtes encore, peut-être que si vous avez peut-être que être célibataire à 20 ans ne pose pas les mêmes questions ou ne pose pas les mêmes questions que lors quand on est célibataire à 40 ans. On se dit, mais effectivement, le regard des autres, les autres qui pensent, mais alors c'est pour quand? Enfin voilà, on a commencé à avoir la pression. On est d'accord. Effectivement, c'est sûr que ce n'est pas une norme que d'être célibataire à 40 ans. Donc là, parce que cette personne a 40 ans, ça signifie qu'elle est forcément plus mûre. Elle se doit d'oser se poser des vraies bonnes questions. Est-ce que je le suis parce que j'ai c'est un choix? Si j'ai fait ce choix-là, est-ce que c'est un choix qui est approuvé de Dieu? Quand je dis approuvé de Dieu, est-ce que Dieu vous l'a demandé? Parce que le fameux don du célibat dont on parle, on dit moi j'ai le don du célibat. Par définition, c'est toujours le célibat est toujours une exception. Ce n'est pas le don du célibat est toujours une exception. Ce n'est pas un fait. Je répète, bibliquement parlant, le célibat n'est pas une condition de vie. C'est une étape. Donc, ça veut dire que celui qui a le don, qui se dit avoir le don du célibat, comme on pourrait le dire par rapport à Paul, je répète, Paul n'a pas été forcément célibataire. Oui, oui. Ça, c'est encore théologiquement prouvé. Il n'est pas forcément célibataire. C'est parti du Sanhédrin, ça ne veut pas forcément dire qu'il est célibataire. Ça dit simplement qu'au moment où il va être dans le ministère, il est célibataire. D'accord? Et donc, on est célibataire pour accomplir une mission. Et on peut l'être pendant un temps. Et puis, ne plus l'être après. Voilà. C'est pour accomplir une mission. Donc, la personne qui a 40 ans et qui est célibataire, ou 50 ou plus, je sais pas, voilà. Est-ce que ça a été pour ces raisons-là qu'elle l'a été ou qu'elle l'est? Ou est-ce que il aurait pas été bien pour elle de réfléchir sur peut-être une déception, un moment ou un autre de sa vie, qui a créé un blocage? J'en rencontre. Je le dis, je pratique le conseil conjugal et familial, je rencontre tout type de profils, pas que des gens mariés. Des gens aussi célibataires qui se posent ce type de questions. Qu'est-ce que j'ai? Peut-être que j'ai un problème, moi. Et c'est pas que j'ai un problème, mais un problème ou une expérience a créé un problème en moi, a créé un blocage en moi, dont je dois pouvoir être délivrée, j'ai envie de vous dire. Être aidée pour en être délivrée, pour passer à un autre cap dans ma vie. Et ne pas me conforter à une conception qui finalement me piège. Et c'est là que je dis qu'il faut pouvoir être vraiment honnête avec soi-même. Et admettre que voilà, et ne pas forcément développer une certaine aigritude à l'égard de ceux qui se marient ou qui rencontrent ou qui ceci ou qui non. Si je ne suis pas aussi mariée pour les jeunes là, par contre, je ne suis pas encore mariée parce que je cherche, j'ai 30 ans, je ne suis pas mariée. Est-ce que je suis prête à me marier? Parce que là encore, c'est notre question. Mmh. On se dit être célibataire, on veut être marié, mais on n'arrive pas à trouver quelqu'un. Mais Dieu aussi voit que si tu vas te marier, tu vas être un problème pour l'autre. Donc, non, parce que tu n'es juste pas prête. Parce que tu n'as pas passé les étapes durant le temps qui t'était donné pour pouvoir te préparer au mariage. Donc, tu seras homme ou femme poison pour l'autre. Donc, Dieu dans la bonté, non mais c'est vrai, il faut se le dire, Dieu dans sa bonté, la bonté qu'il a pour tout un chacun, te préserve toi déjà de ne pas l'être pour l'autre et préserve l'autre que qu'elle soit pas atteinte par la présence de ce poison. Vous comprenez que il y a des enjeux qu'il faut prendre en considération. Il y a des réalités. Papa aime tout le monde. Papa a un projet, mais il est conscient qu'on est quand même dans un temps d'imperfection. Il se doit de composer avec tout cela. Voilà. Et c'est là que je dis que nous devons, autant que faire se peut, lui faciliter la tâche en se posant des vraies bonnes questions, en allant là où il faut pour se faire aider, en allant dans les séminaires. Alors, des séminaires, il y en a beaucoup eu ou beaucoup, il y en aura certainement encore. Il faut continuer y aller, même si on a l'impression d'avoir tout compris. Mais en fait, parfois, on n'a pas beaucoup compris grand-chose de l'essentiel où on retient que ce qu'on veut. Il faut pouvoir s'exposer à une réflexion sur soi. Vraiment, en tant que célibataire. Mais je le répète, c'est une bonne nouvelle. Un célibataire est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez la possibilité de faire mieux que les autres. Amen. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, se disent, si j'avais su, je n'aurais pas. Mais vous avez la possibilité d'acquérir une connaissance qui vous permette d'éviter telle ou telle situation. Vous avez le temps de mieux faire ou de pas faire d'erreur. Vous avez ce temps-là. Voilà, et je me dis qu'il ne faut pas passer ce temps-là à maugréer ou à se plaindre ou à fuir aussi, à être dans un processus de fuite. Non, il faut être honnête et faire face à Dieu, à soi-même, devant le miroir et face à l'autre aussi. c'est le temps aussi de rencontrer le différent, de rencontrer, pas dans l'optique forcément de se marier. Je me rappelle de quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui je discutais, qui me disait ah oui, mais moi je ne parle à personne si Dieu ne m'a pas dit que c'est celui-là, si Dieu m'a pas dit que c'est cet homme-là qui sera mon mari. Je dis, à un moment donné, non, il faut se poser à l'autre, il faut parler avec l'autre, que ce soit femme, homme, et pas forcément tout de suite voir l'autre comme étant l'élu. Non, on doit s'exposer à la différence pour mieux se connaître. Voilà.
Alors moi,
c'est le célibat qui nous donne le temps de le faire.
Une petite question. Notamment dans nos églises, il y a des espaces ou des groupes qui sont créés pour un petit peu aider les couples qui sont en difficulté. On vient de parler là de célibataires qui devraient un petit peu se poser, réfléchir. Je parle de célibataires pas de 20 ans, hein. Tu donnais l'exemple de 40, 50 ans. Est-ce qu'il y a des espaces où ces personnes peuvent rencontrer des personnes pour discuter un petit peu de leur vie, faire un point, être suivi? Est-ce que ça existe?
Alors, oui, ça existe, mais je peux pas, je pense, en parler en ligne et ce soir. Mais sachez en tout cas que moi-même, je suis à la tête et à la direction d'une organisation qui justement propose ce type d'accompagnement, aussi bien psychologique et aussi, je dirais, même physique aussi, où nous avons des conseillers en images. Parce que vous savez, être célibataire, c'est toute une réalité aussi, hein. Un célibataire qui cherche un conjoint mais qui n'est pas attentif à sa silhouette, je dirais, à sa tenue vestimentaire. Enfin bon, voilà. C'est assez large, hein. Aujourd'hui, dans le monde de l'image telle qu'on se retrouve, il faut savoir se poser vraiment les bonnes questions, être accompagné lorsqu'on ne peut pas, lorsqu'on n'a pas eu, et ne pas avoir honte de demander de l'aide. Et notre structure le propose, notre structure Médiation Plus propose, et nous sommes là pour vraiment accompagner. Nous ne faisons pas simplement un accompagnement en termes d'enseignement, je dirais, général. Nous accompagnons aussi dans la prière, dans le suivi de la personne aussi, de façon personnelle aussi, puisqu'on prie aussi pour les personnes. Nous jeûnons pour les personnes. Voilà, parce qu'il y a des situations si bien spécifiques, hein, vous savez, il y a des dimensions spirituelles dont nous n'avons pas toujours conscience, donc nous ne prenons pas toujours intérêt. Nous sommes des chrétiens, nous savons qu'il y a une guerre spirituelle qui se joue. Donc parfois, on peut être aussi lié dans sa vie célibataire par rapport à pas mal de liens aussi du passé. D'accord? Et donc tout ça aussi nous donne l'occasion, dans notre structure, d'accompagner les personnes. L'objectif, c'est que le plan de Dieu se réalise dans son peuple. Amen. Il faut qu'il se réalise. Il faut qu'il se réalise.
Alors, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi rapidement? Avec cette structure, pardon.
Oui, notre structure se trouve donc sur Paris 13e. S'appelle Médiation Plus. Et puis, on rentre en contact avec moi ou avec mon époux Teddy Blataz. Les numéros 07 82 11 44 97 ou le 07 82 43 84 17.
Alors, je pense que notre message va être...
Noter. Alors, on va essayer d'en noter un. Alors, si tu peux nous redire un.
Alors, le 07, pardon, 82 11 44
97.
D'accord, très bien. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si Cathy...
Il a oublié mon prénom.
Non. Si la question a... si la question a trouvé réponse, en tous les cas, je crois que si.
Moi, j'ai beaucoup aimé cet échange.
Oui.
Mais moi, en tant que femme mariée, ça m'a ouvert l'esprit sur certaines choses.
Oui.
Ça m'a fait réfléchir sur certaines choses que j'aurais pu éviter. Si j'étais au courant enfin, David me regarde. Je parle pas du choix du conjoint. Je parle de, voilà, peut-être une préparation plus poussée, plus réfléchie. On a eu aussi beaucoup de retours de célibataires qui apprennent que, en ce début d'année, bonne nouvelle, le célibat n'est pas un fardeau, n'est pas une condamnation. Je suis très très heureuse d'avoir eu cet échange. Je t'avais parlé d'un échange d'une demi-heure, il a duré plus d'une heure, mais
oui, c'est vrai.
et je tiens à préciser quand même que malgré cela et malgré l'heure qu'il est, tous les auditeurs sont,
restés connectés.
Il y a plus de 250 personnes connectées.
Voilà. 250 connexions, même pas personnes. Ouais. Donc, tout cas, je rends gloire à Dieu pour ça, parce que c'est vrai que dans nos églises, parce que, bon, on est quand même chrétiens, c'est vrai qu'il y a un réel problème au niveau de la vision du mariage, un réel problème au niveau de la structure familiale, et un problème... j'ai envie de dire un groupe de personnes qui sont les célibataires, ouais. qui sont regardés d'une manière, même si on n'ose pas le dire, très pas avilissante, mais j'ai envie de dire, enfin voilà, j'espère que ce soir notre vision va changer, et qu'entend aussi que chrétiens on puisse ne pas enfin, j'ai envie de dire, prendre position aussi, même dans la prière. Tu parlais de ta structure qui jeûne et qui prie. Mais nous aussi, qui nous appelons frères et sœurs, nous sommes appelés aussi à demander à Dieu de nous ouvrir, enfin, ou d'ouvrir les yeux célibataires sur, voilà, sur quelque chose qui devrait être changé ou un nœud au niveau de l'aspect spirituel et là, d'une délivrance qui devrait être faite. Donc, je te remercie beaucoup, énormément, Francine, pour cet échange. J'espère que,
qu'on aura l'occasion de réitérer.
Ouais.
Avec beaucoup de plaisir, en tout cas.
Si, parce qu'il y a de nombreuses problématiques et voilà. En tout cas, moi, j'ai été richement bénie. Ça m'a ouvert les yeux même sur mon regard sur certaines personnes, certaines situations et même cet amour-là qui est agapé. Ça nous amène à nous poser des questions sur l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Donc, je te remercie encore une fois.
Je voulais rebondir sur une chose que tu disais tout à l'heure, Cathy. Mm-hmm. Et tu disais que tu réfléchissais un petit peu à ton parcours aussi, que ça t'a fait réfléchir là-dessus et t'en marier. Dire qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Mm-hmm. Et c'est vrai que il y a de ceux et celles qui sont en train de se préparer, ça va leur être très utile cet échange que nous avons eu. Mmh. Il y a ceux qui ne sont pas du tout, mais le fait de l'avoir entendu, ben ça va germer quand ça devra germer, mmh. ça sera semé et ça germera. Et puis il y a ceux qui sont déjà mariés, qui auraient voulu avoir compris cela, peut-être que ça aurait évité beaucoup de choses, mmh. qui sont tristes. Mais j'aimerais leur dire, parce que c'est pour ça que dans notre structure, on ne parle pas de préparation au mariage, on parle de formation à la vie à Dieu. Ça signifie que il n'y a pas une préparation au mariage, auquel cas, quand on est marié, ben, il n'y a plus rien à faire. Il y a aussi un suivi qui est possible. Quand je dis un suivi, ben, même lorsque je suis mariée, j'ai pas tout compris, en fait. Il y a des choses qui m'échappent. Il y a des choses que j'ai pas conscience. Il y a des choses qui doivent changer, mais qu'il faut mettre des mots dessus. Et il y a des formations que vous vous rendez compte que lorsqu'on est employé dans un travail, ben on nous emmène en formation, nous envoie en formation. Pourquoi on nous envoie pas en formation pour le mariage? Le mariage, c'est un lieu de travail. C'est un espace de travail, sur soi. Et sur son caractère. Donc, il y a des espaces de formation pendant des périodes. On peut le faire. Et ça, on le propose. Et donc, dire aux personnes aussi, et encourager tout un chacun, quel que soit de ce qu'il a vécu, Dieu a un plan. Et il faut le comprendre. Et même si on est dans des difficultés, il y a quelque chose à ressortir de ces difficultés. L'objectif de Dieu, c'est d'être glorifié au travers de nos vies. Et ça, on peut le faire à quel que soit l'âge, quelle que soit la condition de notre statut, et même pour ceux qui ont été divorcés, même pour ceux qui sont en pleine séparation, il y a aussi une bonne nouvelle pour eux. Et je voudrais qu'ils le gardent en mémoire et que ce sabbat soit l'occasion pour eux de réitérer, en tout cas, leur engagement envers Dieu, et même envers leur époux et futur, enfin, quel que soit. Voilà.
Voilà. Ben, merci beaucoup, Francine, une fois de plus. Te souhaitons un très bon sabbat et puis nous gardons ton numéro sur la main. Je pense qu'on aura besoin de toi bientôt.
Avec plaisir, avec plaisir. C'est un plaisir. Et puis je voudrais aussi vous encourager, vous ainsi que toute l'équipe, parce que je me suis mis derrière, c'est tout un staff et un travail. Advent Live, vous faites vraiment un très bon travail.
Merci beaucoup.
Belle action, et que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est ça, en fait, que j'aime soutenir, des projets de jeunes qui se mobilisent pour Dieu et pour pouvoir avoir l'objectif de répandre sa vérité au monde. Amen. Soyez bénis pour ça.
Merci beaucoup et gloire à Dieu pour ça. Alors, voilà, merci beaucoup. Nous allons, une fois n'est pas coutume, vu qu'il est déjà un petit peu tard, avoir un moment de prière voilà, tout de suite après cet échange. Et puis, nous vous laisserons en musique juste après. Donc, voilà, une courte pause musicale. Et puis, nous revenons en prière. Ne bougez pas, parce que ça serait dommage de ne pas conclure ce moment par une prière. Voilà. Alors, à tout de suite. Radio Anathaï.